si vous l'avez devant les yeux, je voudrais simplement vous dire un ou deux mots en introduction avant que nous ne nous laissions parler par cette parole que Dieu a voulu nous adresser. Nous sommes dans une série de méditations sur les psaumes. Je vais juste m'avancer un peu parce que... Et nous avons vu que les psaumes sont très différents, n'est-ce pas? Il y a des psaumes où nous avons appris à soupirer après la vie éternelle à venir, où nous avons appris à prier maintenant ici-bas dans nos détresses. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur un psaume qui nous parle du Seigneur Jésus et de son accomplissement de rédemption à la croix. C'est une prophétie. Vous savez que David vivait donc à peu près 900 ans avant Jésus-Christ. David qui écrit ce psaume, il raconte quelque chose très loin avant que Jésus ne vienne. Mais il prophétise de manière ô combien précise sur les détails de la crucifixion de Jésus. Et vous allez voir ça. Maintenant, pourquoi est-ce que nous choisissons ce psaume aujourd'hui parmi ceux que nous aurions pu sélectionner? La question suprême, les amis, pour moi et pour vous, c'est est-ce que l'Évangile est vrai? Pas est-ce que je l'aime, est-ce que ça me fait du bien? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, mais qui font du bien à ceux qui les croient ou qui on pense que ça me fait du bien. Mais en tout cas, nous ne pouvons pas agir comme cela. Nous voulons voir et nous voulons savoir si c'est vrai. Est-ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, dans l'histoire? Est-ce qu'il a accompli une expiation des péchés des âmes, comme moi et vous, qui est maintenant disponible pour que je vienne à cette source pour être lavé et mis en règle avec Dieu? Est-ce qu'il a fait cela? Est-ce que la foi chrétienne est la vérité? La vérité. Et une des manières dont Dieu a disposé pour nous montrer que c'est la vérité et pas autre chose. Parce que bien sûr, si Dieu nous donne sa vérité, il doit nous montrer que c'est celle-là. Et il y a une manière très forte dont Dieu s'est servi, la prophétie. Est-ce que vous saviez que le christianisme est la seule religion au monde qui a des prophéties? Et en fait, la religion chrétienne est une religion prophétique. Des centaines de prédictions des siècles avant, de manière très précise, et par ces prédictions, Dieu nous indique que c'est ça la vérité. Je vais vous prouver ce que je suis en train de dire. Mais vous pouvez regarder vous-même. Vous savez que dans l'hindouisme, il n'y a pas de prophétie. Dans les textes du bouddhisme, il n'y a pas de prophétie. Dans l'islam, on se revendique d'une seule prophétie. Vous savez ce que c'était? À un moment donné dans le Coran, après sa défaite à la Mecque, la première fois, ses armées ont été battues, donc il est dit que Mohammed dit qu'il va revenir à la Mecque et qu'il va donc remporter la victoire. Mais c'est pas une prophétie. C'est ce qui arrive tous les jours en France lorsqu'une équipe de foot perd à Marseille et un des joueurs de Lille dit on va revenir l'année prochaine et on va les battre là, chez eux. N'est-ce pas? On dit toujours ça. Quand on est battu, c'est la tendance. Il n'est pas en train de prophétiser, c'est juste une phrase qui est sortie comme ça. Donc, et même si c'est une prophétie, c'est bien minable comme prophétie. Si c'est tout ce que l'islam contient, bon, nous pouvons mettre ça de côté. Mais regardez avec moi dans le livre d'Isaïe, pourquoi ce fait que toute la vie de Jésus-Christ a été prédit des siècles d'avant, où il allait naître, la ville, de quelle ligne, de la maison de David, etc., comment il allait mourir, comment il allait vivre, qu'il allait faire des miracles, quelle sorte, qu'il serait trahi pour 30 pièces d'argent, tout est dit dans l'Ancien Testament, et nous savons fort bien que cet Ancien Testament existait pendant des siècles avant Jésus-Christ, et que les Juifs, le judaïsme a existé des siècles basé sur ces textes. Donc là, il n'y a pas de doute.
Ok. Donc nous regardons en Ésaïe, chapitre 46, et les versets 9 et 10. Voilà pourquoi les prophéties sont importantes. Dieu est en train de montrer qu'il est le seul Dieu, le seul vrai Dieu, et voilà son argument. Je lis le verset 9. C'est Dieu qui parle. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Dieu dit, la manière dont vous pouvez savoir que moi je suis le vrai Dieu, et pas ces autres dieux, c'est par des prophéties. Mes prophètes vous disent ce qui va arriver dans l'avenir. Et cela arrive. Je vous donne un autre verset, si vous tournez au chapitre précédent, en Ésaïe 45, et le verset 21, il est toujours question de cette même argumentation, c'est Dieu qui parle. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel, et il n'y a point d'autre Dieu que moi? Les événements qui arrivent où la Syrie, les Mèdes et les Perses, Dieu annonce d'avance quels sont les grands empires qui vont venir dans l'histoire humaine, dans le livre de Daniel. Il annonce l'Empire grec, il annonce l'Empire romain des siècles avant. Et les choses arrivent exactement comme cela. Et encore un verset de plus dans le chapitre 44, si vous tournez une page, et les versets 6 à 7. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Voilà. Maintenant, chers amis, nous allons nous plonger maintenant dans le psaume 22, écrit 900 ans avant Jésus-Christ. Et si ce psaume vous décrit en détail très exactement tout l'évangile, je vous mets devant Dieu. Vous l'avez entendu aujourd'hui, et vous allez rendre compte à Dieu. Vous avez su que c'est la vérité. Je vous supplie de ne pas refuser l'amour de la vérité pour périr, mais embrassez la vérité, que c'est vrai. Nous allons donc faire quelque chose de très simple ce matin. Nous n'allons pas rentrer du tout dans les détails du psaume 22. Tout ce que je veux faire, c'est de vous montrer la logique du psaume. Et dans le dernier verset, on va camper 4 minutes. Ok? Donc, suivez avec moi la logique du psaume, et il est absolument formidable. Donc, je dois vous dire quand même une chose pour que vous compreniez comment ça marche. David écrit souvent des psaumes qui sont messianiques, c'est-à-dire des chants qui parlent non pas de lui, mais du Messie. Mais parfois, ces chants partent d'une expérience, oui, de David. Mais quand on lit tout le psaume, on dit, oui, il a pu vivre quelque chose un peu comme ça, mais non. Non, cette expérience dépasse tout ce qu'un homme, un simple homme, pourrait vivre. Et tout ce qu'on sait que David a vécu. Donc, parfois, le Seigneur utilise l'expérience de David et il lui donne des prophéties qu'il ne comprend pas, même lui-même. Et il écrit. Il écrit de ces choses sous l'inspiration de l'Esprit. Mais cette fois, il n'en est pas ainsi. Il n'y a rien dans la vie de David qui correspond à ce que nous allons lire. Rien. Quand il va dire « ils m'ont percé les pieds et les mains », David n'a jamais été crucifié. D'accord? Et donc, vous allez voir qu'il est en train d'écrire avec précision les souffrances de quelqu'un d'autre. Ok? Bien.
Maintenant, nous allons commencer avec les versets 20, les versets 2 et 3, et on va juste aller de manière chronologique dans le texte. Et je vais vous dire chaque fois ce que signifient les quelques versets de la section, et puis on va les lire. Donc au début, nous voyons le serviteur fidèle de Dieu qui souffre l'abandon de Dieu. Regardez, nous lisons. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu t'éloignes, et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos. Dans ce début, David annonce tout simplement ce qui se passe et il va détailler ça plus tard. Mais il y a quelqu'un dans l'histoire qui est un serviteur de Dieu qui peut dire « Tu es mon Dieu, je crie vers toi, mais tu ne me réponds pas. Je suis abandonné par Dieu lui-même. » Donc, d'avance, David nous dit que cette expérience aura lieu chez ce serviteur de Dieu. Deuxième partie. La souffrance de ce serviteur n'est pas due à une injustice ou un péché de sa part. Nous lisons les versets 4 à 6. Pourtant, je suis abandonné, hein, mais pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu, pardon, j'ai fait une erreur, j'ai annoncé le titre de la section un peu plus loin. Cette section, c'est que la souffrance du serviteur fidèle n'est pas due à une injustice de la part de Dieu, plutôt. Ok, de quelque chose qui ne va pas chez Dieu. Ok, donc on lit. Donc il est abandonné, mais il dit, pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et n'étaient point confus. Donc David est en train de dire, je suis abandonné, mais ce n'est pas parce que toi-même tu es mauvais, tu es injuste. Tu es le saint. Tu sièges. Ton peuple loue tout ce que tu es parce qu'ils t'ont trouvé pendant toute l'histoire toujours fidèle. Donc, il est prophétisé ici qu'il va y avoir un homme qui sera dans un dilemme incroyable. Qui peut comprendre ça? L'homme juste complètement abandonné par Dieu et pourtant ce Dieu est juste et saint. La section suivante, nous voyons que malgré la fidélité de Dieu, ce serviteur fidèle est mis en honte, une honte au-delà de toute conception, et il n'est pas délivré de cette honte injuste par Dieu. Les versets 7 à 9. Donc, il disait avant, les autres se confient en toi, et ils n'étaient pas confus, pas de honte pour eux. Mais moi, il vaut mieux dire mais moi je suis un ver et non un homme. Voilà une honte, une mise en confusion d'une manière incomparable. Et l'opprobre des hommes et le mépriser du peuple. Voilà, il est devenu quelque chose d'horrible. Tous ceux qui me voient se moquent de toi, de moi, pardon. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. « Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel sauvera, il le délivrera puisqu'il aime. » Et en fait, les gens sont passés devant Jésus, et ce texte est cité dans l'Évangile, parce que les gens ont dit exactement cela. Les pharisiens, les responsables, « Sauve-toi si Dieu t'aime, confie-toi à l'Éternel, et sors de là. » Il le délivrera puisqu'il aime. La section suivante est la partie que j'avais évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire cet abandon de cette confusion, cette honte dans laquelle cette personne va se trouver dans l'histoire, ce n'est pas à cause de son péché non plus. Regardez ces versets 10 à 12. « Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. » Voilà une personne qui était au bénéfice d'une relation, d'une bénédiction de Dieu, dès sa conception. Et encore plus fort, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Il peut dire, j'ai toujours été à toi, j'ai toujours marché avec toi, j'ai toujours vécu dans cette relation. Qui est décrit ici? Encore, nous allons plus loin, et dans les versets 13 à 19, la plus grande section que je vais vous lire, nous avons donc les souffrances du serviteur. Regardez bien ces souffrances. Nous lisons le verset 13. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écroule, tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande scélérat rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent. Donc quelque chose arrive en public. Ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique, donc il est nu. Nous voyons une description incroyable d'une crucifixion. Voilà un homme dont les mains et les pieds sont percés. Et je dois vous dire, la crucifixion n'existait pas à l'époque de David. Selon les historiens, la crucifixion est venue quelques siècles après David, probablement chez les Perses. Et donc, c'est vraiment les Romains qui était le seul dans l'histoire à l'utiliser de manière très très courante, et donc notamment à utiliser une sorte de crucifixion par laquelle les mains et les pieds étaient percés. Sinon, dans d'autres formes de crucifixion, on attachait avec des cordes les mains et les pieds. Mais ce sont les Romains qui ont utilisé une forme de crucifixion qui correspond exactement à ce passage. Or, ce passage est écrit des siècles avant, quand personne n'a jamais vu une crucifixion de la sorte. Donc nous voyons que, je vais finir le verset 20 et 21. Et toi éternel, je crois qu'on est bien là. Il tire au sort ma tunique, on va arrêter là. Nous voyons que la source des souffrances de ce serviteur, humainement parlant, c'est des hommes mauvais. D'accord? Parce qu'on voit dans le texte, dans le verset 13, 14, 17, il les appelle des taureaux. Ils les appellent des lions, des chiens. Ce sont des mots qui parlent d'âmes mauvaises qui vont tirer au sort les vêtements d'un homme qui est exécuté. Il y a beaucoup de haine, parce que dans le verset 14, on nous dit qu'ils sont comme des lions qui ouvrent leur gueule contre lui, qui rugit et le déchire. Voilà, quel personnage dans l'histoire, quelle expérience que vont donc correspondre à toute une foule, parce que tout le peuple est là. Tout le peuple se moque. Il est le méprisé de la nation du peuple. La violence de ces souffrances est impensable. Nous voyons dans le verset 15 que ses os se séparent. Donc on est en train de parler d'une situation où les articulations se disloquent d'un homme. C'est bien le cas de Jésus. On nous dit que dans la crucifixion, à un moment donné, presque inévitablement, les articulations se disloquent parce qu'on est pendu comme ça et la personne doit se hausser chaque fois pour respirer. Et à force de perdre la force physique, donc à un moment donné, les gens crucifiés le plus souvent, ils mourraient par étouffement. Et un étouffement qui est venu quand les os se disloquent et ils n'arrivent plus à se hausser pour respirer. Et Jésus parle de ce phénomène, David parle de ce phénomène qui est tellement propre à la crucifixion. Nous voyons dans le verset 17, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et il n'y a que la crucifixion où on voit ce phénomène, qu'on perce les pieds et les mains de quelqu'un pour le tenir sur une croix. Et David nous prédit ça avec précision. Il dit dans le verset 16 que sa langue se colle contre son palais. Rappelez-vous de la parole de Jésus, j'ai soif, j'ai soif. La seule fois pendant la crucifixion, le Seigneur semblerait se plaindre presque. En tout cas, sa souffrance est tellement grande et le dessèchement de la bouche et du palais. Et David nous raconte ce détail, semble-t-il, très secondaire. Ses souffrances émotionnelles et psychologiques sont extrêmes. Dans le verset 15, nous lisons, « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. » Quand il dit « mon cœur est comme de la cire », il est en train de parler de ce désarroi complet au niveau émotionnel que le Sauveur a souffert, où il crie, où les ténèbres l'ont envahi, il est abandonné de Dieu, et pas simplement le corps, mais tout le cœur du Sauveur est comme de la cire qui se fond, qui est mise en miettes. Et nous voyons aussi qu'il perd tout ce qu'il a de matériel. Les gens prennent sa tunique, et ils jettent au sort pour avoir ses vêtements. Et donc tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, est vraiment, il est dans la perte totale, dans la souffrance totale. Et David décrit quelqu'un qui va subir exactement tous ces phénomènes, au même moment. Dans le verset 16 et le verset 2, nous voyons que ses souffrances spirituelles, c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu, sont extrêmes aussi. Il dit dans le verset 16, « Tu me réduis à la poussière de la mort. » Il parle à Dieu. Et il dit que même Dieu est en train de faire quelque chose contre lui, pas seulement les hommes. « Tu me réduis à la poussière de la mort. » Dieu est en train de l'écraser lui-même. Et c'est pour cela qu'il dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes ?» Il parle d'un personnage dans l'histoire qui va souffrir terriblement, physiquement, mais Dieu lui-même va abandonner ce serviteur fidèle et l'écraser. 900 ans avant. Nous continuons et nous arrivons au point tournant du psaume. Lisez les versets 20 à 22 avec moi et nous avons le point tournant où malgré ses souffrances, le serviteur continue à se confier à l'Éternel dans le moment de crucifixion et prie pour la délivrance. Il prie qu'il soit ressuscité, en quelque sorte. Les versets 20 à 22. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens, sauve-moi, et il sera sauvé par la résurrection. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Et maintenant, tout va changer dans le psaume. Okay. Donc nous lisons la section suivante, et tout ce qui suit maintenant est une anticipation de la résurrection. Okay. Ou qu'est-ce qui va arriver à ce serviteur souffrant quand il ne souffre plus. Nous lisons d'abord que la délivrance de ce serviteur sera proclamée comme un sujet de louange pour tout le peuple de Dieu. Okay. Donc David prédit un événement qui n'est pas simplement un événement qui concerne un individu. Parce que quand ce serviteur est délivré, ce sera un sujet de louange pour beaucoup de gens. Et nous allons voir que beaucoup de générations et beaucoup de nations. David, dans le petit pays d'Israël, prédit que la souffrance de quelqu'un de si méprisé va toucher le monde entier. Regardez bien. Nous lisons les versets 23 à 25 d'abord. Je publierai ton nom, une fois que je suis ressuscité, parmi mes frères, dis à mes frères que je suis ressuscité, Jésus dit à Marie, n'est-ce pas? je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. La résurrection prouve la bonté de Dieu envers son serviteur et envers tous ceux qui se rangent du côté de ce serviteur. Ensuite, dans les versets 26 et 27, nous voyons que les fruits de cette délivrance du serviteur seront le salut et la bénédiction pour d'autres personnes. Nous lisons le verset 26. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges, j'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent, dit le Messie. Les malheureux mangeront et se rassasieront, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront, que votre cœur vive à toujours. Donc, une des conséquences des souffrances de ce personnage et de sa délivrance, c'est qu'il va y avoir d'autres gens qui vont être rassasiés et qui vont célébrer. Maintenant, il faut que vous compreniez, parce que tout cela est couché dans la vie de l'Ancien Testament. Autrement, les gens de l'époque n'auraient pas compris. Mais regardez bien, dans le verset 6, il dit, dans la deuxième partie du verset, « J'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent, et les malheureux mangeront. » Voilà ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Quand quelqu'un était dans la détresse, et qu'il invoquait Dieu, souvent il faisait un vœu. Au moment de prier Dieu pour la délivrance, il disait « Seigneur, si tu me délivres, je fais un vœu que j'apporterai un sacrifice au temple à Jérusalem. » Et donc, selon la loi de l'Ancien Testament, un sacrifice de reconnaissance, d'action de grâce, devait être partagé avec les pauvres. On devait inviter d'autres gens, surtout les malheureux, qui donc profitaient de la fête. Et donc, le fait que cet homme a été délivré est devenu une source de bien et de bénédiction pour les malheureux qui, maintenant, vont venir manger le sacrifice. Et donc, il parle de cela. Et sauf que dans le cas de notre Seigneur, le sacrifice d'action de grâce, c'est le calvaire. Et ce que nous mangeons, et c'est représenté dans la scène, quand nous mangeons la scène, c'est un peu comme ce sacrifice d'action de grâce, où nous célébrons que Christ est ressuscité pour nous, comme notre Sauveur, et que nous profitons, nous les malheureux, nous les pécheurs, nous les coupables, c'est nous maintenant qui sommes au bénéfice de ce que lui, il a fait. Mais le psaume prédit qu'il va y avoir cet effet dans la souffrance de cet homme qui avait été percé. Ensuite, nous lisons les versets 28 et 29, qui nous dit que les conséquences bienheureuses de la souffrance de ce serviteur vont atteindre toutes les nations. Ça ne va pas se passer dans un coin, être oublié dans l'histoire. Et qui pourrait dire d'avance qu'un événement va avoir une portée mondiale? Est-ce que vous pourrez? Est-ce qu'on est capable de dire qu'un événement qui concerne qu'un individu dans un petit pays va bouleverser toutes les nations du monde? Impossible, Dieu seul. Mais nous lisons dans ces versets 28 et 29 ceci. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel à cause des souffrances de ce serviteur et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Et Dieu montre qu'il est dominateur quand il vainc le péché à la croix du Christ. Il montre qu'il est le Dieu souverain lorsque Satan est battu à la croix. Et c'est vrai, si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes les extrémités de la terre. Et pourquoi est-ce que vous pensez à l'Éternel? Et pourquoi est-ce que vous ne faites pas partie de ces gens? En Inde, en ce moment même, vous savez que c'est une année spéciale en Inde. Il y a 100 millions de personnes réunies en un endroit. C'est le plus grand rassemblement humain qui se passe jamais dans l'histoire. tous les 12 ans en Inde, au grand fleuve, ça s'appelle comment ?
Le Gange.
Le Gange. 100 millions d'hindous viennent parce qu'ils disent qu'il y a eu une lutte entre les dieux et les diables dans ce fleuve pour s'emparer de l'élixir de la vie, et que les dieux l'ont eu, mais ils ont laissé tomber quelques gouttes dans le fleuve. Et donc, tous les 12 ans, le peuple hindou, c'est la religion hindoue, ils viennent en pagaille dans ce fleuve pour se laver, et ils disent qu'ils sentent que le fleuve a la puissance de le laver de leur péché. Et vous savez qu'il y a à peu près, plusieurs millions de dieux dans l'hindouisme. Des dieux qui poussent les âmes à mettre des épées à travers leurs joues, j'en ai vu les photos, à percer leur propre visage, à se couper. Je l'ai vu en Afrique, de telles pratiques aussi. Des dieux qui vous conduisent à maudire d'autres personnes. Mais pourquoi est-ce que vous pensez à l'éternel Dieu, au Dieu bon, au Dieu juste, au Dieu trinitaire qui est vraiment là? N'est-ce pas à cause de la souffrance d'un homme qui a été percé et qui vous a été annoncé? Parce que là, dans cette nouvelle, vous avez appris comment est-il le vrai Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce. Et là, vous avez su. Il y a des gens qui disent, je ne peux pas me confier à Dieu parce que je ne le connais pas. C'est faux. Par l'évangile, je me souviens le jour où on m'a annoncé l'évangile. Je ne l'avais jamais entendu. J'ai su qui était Dieu et je l'ai connu. J'ai vu sur cette croix Dieu le Fils mourant à ma place le coupable, et j'ai connu Dieu. Je savais comment il était. Ça m'a bouleversé. Je ne m'y attendais pas. Un Dieu d'une telle grâce, d'un tel amour. Si, vous pouvez maintenant, à cause de cette œuvre de Dieu, savoir qui il est et que vous pouvez vous confier à lui. Ensuite, dans le verset 30, on nous dit que cette œuvre, cette souffrance et cette exaltation, après, va atteindre non seulement toutes les nations, mais toutes les couches de la société. Verset 30. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. C'est une manière de dire, les grands hommes de ce monde, ils seront atteints aussi. Et parmi eux, il y aura un qui vont se prosterner devant Jésus-Christ. Et pas seulement eux, les pauvres aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Les gens au Burkina Faso, avec qui j'étais il y a quelques semaines, qui avaient à peine $12 par mois pour vivre, les pasteurs dans certains de ces coins. Et ils s'inclinent devant Jésus-Christ et devant le Père. Ensuite, on nous dit, et on tire à la fin, j'espère que vous êtes toujours là avec moi, on arrive à la fin. Cet événement va toucher non seulement toutes les nations et toutes les couches de la société, mais toutes les générations. Regardez, la postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. L'œuvre qu'il a fait, Dieu, en ressuscitant le serviteur souffrant. Et seul Dieu pouvait nous montrer que ce qui se passe ici à cet homme percé touchera toutes les nations, toutes les couches de société et toutes les générations. Et ça s'est passé exactement comme ça. N'est-ce pas? Maintenant, nous terminons avec une parole importante. J'ai dit 4 minutes. Ok? Si vous pouvez regarder avec moi juste le dernier verset, la dernière phrase. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né, au peuple qui vient de paraître dans l'histoire humaine. David, par le Saint-Esprit, prédit ici qu'il va y avoir une nouvelle qui sera annoncée, une bonne nouvelle de génération en génération, et qui concerne ce qui s'est passé ici. Et le texte nous dit que cette nouvelle concerne sa justice. Elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre. C'est très important de comprendre que David prédit d'avance que la bonne nouvelle, qui concerne cet événement du serviteur souffrant, concerne la justice. Maintenant, pour bien comprendre cela, il faut savoir que cette annonce qui est faite de génération en génération concerne un fait du passé. D'accord ? Chaque génération va entendre. Donc, on parlera à la génération suivante de ce qui s'est passé à cet homme qui avait été percé. Et on va expliquer le sens de cet événement et on va leur dire, c'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu. Maintenant, en tant que Français, nous avons du problème à comprendre comment l'Évangile peut être un message sur la justice. Parce que quand nous, on dit justice, on pense punition. N'est-ce pas ? Justice. La loi, les sanctions. Mais dans le langage biblique, le mot justice prend une autre connotation. Et je voudrais rapidement vous montrer ce que David a dans sa tête quand il dit « On va annoncer la bonne nouvelle à chaque génération de la justice que Dieu a effectuée en Jésus au Calvaire. » Donc, par le mot justice, grosso modo, pour simplifier, dans la pensée de l'Ancien Testament, la justice de Dieu, c'est une action de Dieu par laquelle Dieu remet les choses d'aplomb. Et dans un sens, c'est ce que la justice fait. Quand la justice agit, il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas ? Et la justice vient faire quoi ? Remettre les choses d'aplomb. Remettre les choses où elles devraient être. S'il y a quelque chose qui a été volé, on redonne la chose au propriétaire, n'est-ce pas? C'est ça la justice. La justice remet les choses, la vie, comme elle devrait être. Et le Dieu de justice est celui qui vient dans un monde où nous, et vous êtes bancal, vous n'êtes pas d'aplomb, vous n'êtes pas à l'endroit, vous êtes à l'envers. Et Dieu vient, et dans sa justice, il remet les choses d'aplomb. C'est ça la justice. On va annoncer la justice de Dieu, c'est-à-dire la manière par laquelle il sauve, délivre et remet les morceaux ensemble. D'accord ? Je veux juste vous montrer un ou deux versets pour vous prouver que c'est bien le sens de la Bible. Le psaume 71, versets 2 et 15. Et là, on est vraiment au bout. Ça va vous aider à comprendre les psaumes notamment et le livre d'Ésaïe quand vous les lisez et quand ça parle de la justice de Dieu. Donc, regardez le verset 2 dans le psaume 71. « Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi, incline vers moi ton oreille et secours-moi. » Et ensuite le verset 15. « Oh Dieu, ma bouche publiera ta justice, c'est-à-dire ton salut, chaque jour. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, parce que c'est la même chose. La justice de Dieu, c'est quand Dieu remet les choses comme il devrait être. Et ensuite, si nous regardons dans le psaume 98, verset 2, vous savez que la poésie hébraïque répète, marche sur le principe de parallélisme. Donc, on va dire une chose dans une phrase, et dans la phrase d'après, on va dire la même chose, mais d'une autre manière. Regardez bien, verset 2. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Les deux phrases disent la même chose. Dieu a manifesté son salut, Dieu a révélé sa justice. Parce que la justice de Dieu, c'est l'action de Dieu par laquelle il remet les choses d'aplomb, il sauve, il nous sauve de ce qui est injuste, nous-mêmes, les conséquences de nos péchés. Et ensuite, je vais vous lire juste un verset dans Ésaïe 46 et 13. Ne tournez pas si vous avez envie de juste rester là. Ma main a fondé la terre. Est-ce que j'ai... Oui. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Ah, est-ce que je suis bien? Ah oui, je suis dans le mauvais chapitre, excusez-moi. Ok. Je suis un peu stressé parce que j'ai pris longtemps là. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. D'accord? Constamment, la Bible fait un parallèle entre la justice de Dieu, ce qu'on appelle la justice de Dieu, et le salut de Dieu. Donc, dans le psaume 22, quand nous arrivons au dernier verset, quand elle viendra, la génération prochaine, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. David est en train de dire, on va annoncer le salut de Dieu. Cette œuvre de Dieu par laquelle il remet les choses à plan pour toi, qui va pas, qui va plus. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La chose qui vous remet en règle avec Dieu, ça s'est déjà passé. C'est quelqu'un d'autre. C'est ses meurtrissures, ses souffrances, ses mains percées, ses pieds percés. Lui, c'est lui qui a souffert ce qu'il vous fallait souffrir. C'est ça qui vous a sauvé. De génération en génération, il faut qu'on le dise. D'extrémité de la terre à l'autre extrémité. Il faut que les gens sachent que les puissants de la terre le sachent, parce qu'ils sont pécheurs, que ceux qui peuvent à peine conserver leur vie le sachent, parce que eux aussi ils sont pécheurs, et que toi ici, si tu n'es pas en Christ, et tu es en train de dire, mais comment est-ce que je vais être en règle avec Dieu? Ne dis plus que tu dois changer quelque chose en toi. Tu dois venir à Dieu tel que tu es là, maintenant. Et tant pareil de Jésus-Christ, qui s'offre à toi comme lui est la solution. C'est lui qui remet les choses à plan. C'est lui qui a tout payé. Et c'est lui qui peut changer ton cœur. Ne change rien. Ne vole pas du Seigneur son office. Ne paie rien. Ne vole pas du Sauveur sa fonction. Viens tel que tu es. Dans toute ta culpabilité, dans tout ton besoin de d'être différent, et dire au Sauveur, je sais que c'est vrai. Tu l'as déclaré d'avance, et tu l'as accompli il y a 2000 ans, et tu me l'annonces. J'ai besoin de toi. Je viens. Nous allons chanter pour terminer notre culte. Vous l'avez sur l'affiche, le verso du fiche, de l'affiche, une bonne nouvelle, descend des cieux, pécheur Jésus t'appelle, lève les yeux. Une bonne nouvelle descend des cieux, pécheur Jésus t'appelle, lève les yeux, chargé de ta misère, de tes péchés confus, viens à Jésus mon frère. Viens à Jésus, le Fils de Dieu lui-même te rachètera. vois son anneau suprême en Golgotha, au sang qui purifie les cœurs souillés perdus, que ton cœur se confie, viens à Jésus, celui que tu l'as, ton péché, au dur jour de l'esclave, est arraché dans son infrasensure, le mal ne règne plus. Laissez-le sanctifier, viens à Jésus. Viens que rien ne t'arrête, viens à l'instant d'un délivrance des prêtres, Jésus t'attend. Si tu crois aux victoires, tes péchés ne sont plus, et tu peux chanter gloire, gloire à Jésus. Je vous invite à prier, sentez-vous libre de prier si vous avez envie de répondre à l'Éternel.
Oui, Seigneur, nous reconnaissons que, en tant qu'être humain fragile et enclin au péché, nous avons besoin d'une source de secours qui soit en dehors de nous, qui vienne de toi, qui est tout autre par rapport à nous. Seigneur, merci d'avoir accompli ce que nous ne pouvions pas faire en Christ. Et Seigneur, ouvre nos cœurs pour comprendre notre besoin de ce secours qui vient d'en haut parce qu'il ne pourra jamais venir d'en bas. Seigneur, aide-nous à saisir cela. Ouvre nos cœurs pour la compréhension de ce message de salut. Seigneur, sauve des âmes et ouvre les cœurs pour qu'ils comprennent ce que signifie la mort de Christ à notre place et sa résurrection pour notre justification. Glorifie-toi, Seigneur. Amen.
Amen. Seigneur Jésus, nous chérissons tout ce que nous avons lu parce que tu l'as fait. Nous te bénissons pour tes souffrances physiques jusqu'au dessèchement de ton palais, Seigneur, sur la croix. Nous te bénissons pour permettre que tes pieds soient percés et tes mains percées pour nous, à cause de nous. Que ta tunique soit enlevée, que ton nom soit méprisé, que ton cœur se fond comme la cire, que ton cœur se brise. Nous te louons de ce que tu as tout accompli afin de nous sauver, afin de nous ramener à toi. Merci pour ton amour qui est révélé dans ce que tu as fait pour nous. Nous ne pouvons jamais plus douter comment tu es, qui tu es. si tu me remercies pour nous qui te tournions le dos. Seigneur, nous voulons prier pour les gens qui ne connaissent pas cette nouvelle dans cette salle et dans cette ville. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses tes églises dans cette ville et qu'elles puissent apporter le salut à tous ces gens dans toutes ces résidences, dans ces blocs d'appartements, dans ces maisons. Partout dans cette ville, Seigneur, qui n'ont jamais vraiment entendu, qui ne savent pas ce qui s'est passé, qui ne savent pas que ça les concerne. Mon Seigneur, aide-nous, nous-mêmes, dans cette petite implantation, d'apporter ton évangile à les gens qui ont tant besoin d'entendre. Pour ceux qui sont ici, qui ne savent pas s'ils sont en Christ ou qui savent qu'ils ne sont pas, Seigneur, aide-les. Aide-les, Seigneur, à ne pas continuer à te refuser, à refuser la vérité, à traiter cela comme quelque chose qui ne leur parle pas, ne les concerne pas. Seigneur, ouvre le cœur, nous te prions. Nous nous remettons à toi pour cette journée qui est la tienne. Bénis-nous, Seigneur, que nous puissions nous réjouir de ta grâce, de ton pardon, de ton salut, de la vie éternelle, de ton âme, ce jour. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.